de retour à l'épreuve des fins en compagnie de Laurence Damioul. Laurence, tu as rencontré Raphaël Gervais-Galipeau du comité ZIP pour les transplants de zostère marine, communément appelé herbe outarde.
Oui, exactement. Herbe à outarde ou foin salé, selon. Donc, on procède à un banc d'essai, en fait, à plusieurs bancs d'essai sur la transplantation et le suivi des herbiers de zostère marine cette année. C'est un projet qu'on aimerait étaler sur au moins 4 ans. Donc, si les gens se demandent, oui, mais est-ce que le comité ZIP n'a pas déjà fait ça par le passé? La réponse est oui, notamment là, en transplantant donc de la zostère marine du quai de l'étang du Nord vers le secteur de Cap-Rouge, principalement pour des projets de compensation. Dans le fond, ce qu'on entend par compensation, c'est quand il y a un habitat est affecté, par exemple, par des travaux de dragage ou de construction, peut-être d'enrochement, pour nommer ça, ben on prend donc de la zostère dans des milieux affectés pour la déplacer, pour créer un nouveau habitat plus en santé, plus sain. Donc, le comité ZIP veut, c'est ça, prendre la zostère qui est mise à mal, la déplacer et espérer, croiser les doigts pour que ça reprenne vie et que ça se poursuive. Donc, je me suis entretenue avec, comme tu le mentionnais, Raphaël Gervais-Galipeau du comité ZIP, qui me donne un petit peu plus d'informations tout d'abord sur qu'est-ce que c'est la zostère marine.
Ben, la zostère marine, en fait, c'est la plante qui se retrouve dans l'eau pas mal partout, autour des îles et dans les lagunes, mieux connue comme l'herbe à outarde, là, qu'on retrouve partout, des fois morte aussi sur les plages. C'est vraiment une plante qui est emblématique de nos fonds marins, là. Il y en a vraiment partout. Puis des fois, on pense que c'est une algue, mais c'est bel et bien une plante à fleurs. Donc, c'est une plante qui, en ce moment, est en train de créer des graines dans nos lagunes. C'est une espèce indigène qui crée des grands bancs de zostère, puis c'est des écosystèmes qui sont super intéressants parce que ça fait des zones de protection pour des espèces dans les lagunes. Donc, un herbier de zostère en soi va permettre à des espèces d'avoir des cachettes, de se nourrir, de pondre des œufs, par exemple. On peut penser au hareng, il va pondre souvent dans la zostère.
Concrètement, le projet que vous avez commencé à mener donc du côté de la transplantation, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend?
Mais en fait, nous, comment on le voit, pour l'instant, on s'est comme semi-sécurisé un financement pour 4 ans. Donc, on sait que ce projet-là va durer au moins 4 ans. Et cette année, ce qu'on fait, c'est vraiment une phase de plantation test. Donc, on a choisi 4 sites avec des conditions différentes. Donc, on a des situations plus en lagune peu profonde, plus profonde en lagune et en mer profond et peu profond. Quand on va aussi en profondeur, mais là, on parle de transplantation en plongée. Nous, les secteurs qu'on visait, c'est surtout des profondeurs avoisinant le 2-3 mètres. Puis l'avantage de ces secteurs-là, c'est qu'on n'a jamais fait de transplantation aux îles en profondeur. Donc, c'est vraiment une première. Puis on a hâte de voir les résultats qui vont en sortir de ça. Et c'est des endroits où est-ce qu'on se demande quelle méthode va bien fonctionner dans ces milieux-là, parce qu'il y a plusieurs façons de transplanter la zostère. Et en fait, nous, ce qu'on va faire là, cet été, c'est de tester les zones qu'on a choisies, voir si elles sont propices à recevoir ce type de transplant-là. Et par la suite, on va faire une transplantation plus grande échelle pour ensuite venir suivre ces transplantations-là au fur et à mesure dans les années pour voir après ça, en tirer des conclusions, si on veut, sur les méthodes qui sont les plus appropriées. Puis nous, après ça, à se faire un peu un protocole de travail, mais aussi de suivi de ces transplantations-là pour possiblement des restaurations compensatoires ou non.
En fonction, j'imagine, des résultats dans les différents écosystèmes, dans les différents fonds marins, en quelque sorte.
Des différents fonds marins et des différentes méthodes qui ont été utilisées. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est tester différentes méthodes. À date, toutes les transplantations, ou presque, qui ont été faites par unité, qu'on appelle. Mm-hmm. Donc, on va vraiment venir prendre une carotte de sédiment avec de la zostère et la planter carrément dans le site receveur. Mais il existe d'autres méthodes qui sont essayées partout ailleurs dans le monde. On peut parler de au brin à brin, donc vraiment enlever chacun des brins de zostère à la main et les replanter selon une différente densité, là. Donc on veut aussi tester vraiment les méthodes associées à la densité de plantation, de récolte, tout ça. Et une autre méthode qui est assez exploratoire, mais qu'on a espoir de au moins mettre à l'essai, c'est de venir prélever les graines des plantes austères. En fait, la méthode que nous, on va utiliser, ça va être de prélever des plants en graines qui ne sont pas encore tout à fait matures et de les laisser maturer dans des sacs dans les lagunes. Donc, ils vont continuer à être oxygénés puis ils vont pouvoir maturer, puis nous, on va les récolter à la fin. Fait que là, ça, c'est toute une méthode qu'on teste pour une première fois, puis on croise les doigts qu'on ait un bon succès, mais encore là, c'est très expérimental. Puis une fois qu'on a récolté nos graines, bien, on les met dans des sacs de jute ou de matériel qui va être biodégradable. Puis si on vient les mettre dans le sol. Donc, c'est pas une graine à la fois, c'est vraiment plus une petite quantité de graines tout ensemble, mais eux autres, ils vont être capables d'aller percer ce sac-là pour faire leurs racines. Donc, ça aussi, est-ce qu'il y a des milieux où ça s'y prête bien, puis d'autres milieux où ça s'y prête pas du tout? C'est ça que le banc d'essai va nous permettre de voir.
D'où on prend, en fait, l'azostère marine?
Ben là, avec ce projet-ci, on va vraiment venir prendre l'azostère à travers un banc qu'on dit donneur, donc un banc naturel en bonne santé avec une bonne densité. Et on va suivre certains ratios de prélèvement pour s'assurer de ne pas avoir d'effets négatifs sur ce banc donneur-là à long terme. Et on va suivre ces bancs-là aussi juste pour s'assurer qu'au moins nos manipulations n'ont pas eu un effet négatif. Mais par la suite, nous, on préfère travailler dans des milieux qui vont être détruits. Dans ce projet-ci, ça se prêtait moins parce qu'il n'y a pas une compensation, par exemple, qui est associée à ça. Mais souvent, on prélève tout ce qu'il y a dans la zone d'impact. Mais là, c'est ça là, un peu la particularité du projet en ce moment, là, c'est qu'on va aller vraiment prélever dans des bancs donneurs qui sont en santé, qui n'ont pas nécessairement d'enjeu d'être détruits autrement, là. Donc, en ce moment, on a 4 sites qu'on a choisis. Il y a dans le coin de Gros-Cap, dans la baie de la Martinique, dans la baie de Plaisance. Ça va être notre site dit en mer. On a à Pointe-aux-Loups. On a aussi 2 sites, un à Cap-Vert puis un à Cap-Rouge. C'est nos sites receveurs et les bancs d'honneur sont les herbiers à proximité.
Okay.
Donc, on facilite les manipulations comme ça en vraiment juste en minimisant en fait les déplacements entre les deux. Puis en fait, on peut aussi conserver une certaine...
acclimatation, j'imagine.
Exact, c'est ça. Les plants sont déjà acclimatés à un certain secteur. Donc, on vient juste les déplacer à un autre endroit où c'est dénudé de zostère en ce moment, mais où les conditions pourraient être propices à ce que celles-ci grandissent bien.
Et est-ce que la démarche a déjà été lancée? Vous êtes-vous déjà rendu donc au site donneur, commencer la transplantation?
Oui, c'est ça. Donc, c'est que la zostère, on veut la planter le plus tôt possible au printemps-été, dans le sens où on veut lui laisser le plus de temps à l'été pour refaire ses racines. Ça reste des manipulations pour elle qui sont stressantes, là, de se faire arracher de la terre et de transplanter ailleurs. Donc, on veut le laisser le plus de temps possible avant les grosses tempêtes de l'automne, puis la perte des feuilles, puis tout ça là, à la fin de l'année. On a commencé à la mi-juin. On a déjà transplanté des bancs test dans des secteurs de Cap-Rouge et de Cap-Vert. Puis là, au courant du mois de juillet, ben, on va continuer nos plantations test.
Qu'est-ce qui constitue un bon taux de succès, donc, de transplantation?
Souvent, dans les compensations, on propose qu'il y ait un 60 % des plants qui ont été transplantés qui survivent. Mais nous, vu qu'on n'a pas associé à des compensations, on peut vraiment voir le succès comme beaucoup de choses. Juste d'avoir un banc qui ne fonctionne pas du tout, c'est une observation en soi. Donc, nous, on est content d'avoir cette donnée-là pour ensuite mieux comprendre qu'est-ce qui peut permettre à un banc de réussir par la suite quand il y a des objectifs de compensation associés.
Quels sont les critères ou les facteurs qu'on va surveiller justement pour évaluer le taux de réussite des différentes méthodes de transplantation?
En fait, nous, on va surtout regarder des critères morphologiques, densité, densité des plants, longueur des feuilles, des choses comme ça. On veut aussi aller faire des prélèvements bantiques. Mm. Donc, aller voir les communautés de bantas qui se développent à travers le banc. Puis ensuite, toutes ces données-là vont être comparées à des bancs témoins, qui sont des bancs naturels, en santé, à proximité, qui vivent dans des conditions similaires. Puis on va faire des comparaisons avec, bon, est-ce que les bancs qu'on a créés après 4 ans, est-ce que ça s'apparente à qu'est-ce qu'on voit dans un banc témoin? Est-ce qu'on est complètement ailleurs? Puis on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc ça va tout être des éléments que, au final, en comparant avec des zones qui sont laissées naturellement, ben on va pouvoir dire, bon, est-ce qu'au moins le milieu qu'on a créé s'apparente à un milieu naturel qui aurait des fonctions associées.
On le disait, une durée de 4 ans pour le moment. On a dit même au moins 4 ans. J'ai cru comprendre qu'il y avait du financement, donc, à la clé pour ce projet-là. On parle de financement à quelle hauteur et qui sont les partenaires financiers du projet?
Le financement sur 4 ans, c'est accordé par Conservation de la Nature Canada. Eux nous donnent un financement avoisinant 40 000 cette année. Et ce 40 000-là est complété par Fonds d'Action Saint-Laurent et Canada Steamship Line, qui financent des projets de restauration aux îles de la Madeleine. Donc ça, c'est pour l'année 1. L'année 2, il y a seulement CNC qui nous finance pour l'instant. Et nous, on va aller chercher une contrepartie avec d'autres moyens de financement pour financer ces activités-là.
En terminant, Mme Gervais-Galipeau, s'il y a des auditeurs madelinos qui vous aperçoivent ou aperçoivent des membres du comité ZIP là, au cours des prochaines semaines, comment vous résumeriez un peu la démarche actuelle du comité ZIP?
On pêche rien, on est en train de restaurer les lagunes, un brin de zostère à la fois. On sait que ces écosystèmes-là sont super emblématiques des îles de la Madeleine et du Québec maritime. On veut voir est-ce qu'on est capable de bonifier ces environnements-là en venant transplanter de la zostère dans des zones qui ont été perturbées ou qui sont dénudées de zostère. Donc, c'est vraiment ça notre projet en ce moment.
Raphaël Gervais-Galipeau, chargé de projet au comité ZIP. Merci beaucoup.
Merci à toi.